Radio Zanzine présente Comme un avion sans aile. La lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes à Nantes. Au mois de septembre 2009, je me suis rendu dans l'agglomération nantaise et j'ai rencontré quelques personnes qui s'opposent à la construction du nouvel aéroport de Nantes sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. Je vous propose donc de revenir à la fois sur l'histoire de ce projet, l'histoire de la lutte, les controverses et débats internes qui se passent dans cette lutte, et puis on parlera aussi de Nantes et de son développement.
Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of PSA, the entire flight crew, at this time we'd like to call to your attention the importance of reading the illustrated card that you'll find located in the seat pocket in front of you. This card does contain important information.
Nous commençons avec Paul qui revient sur l'histoire de ce projet.
Oui, alors le projet vient depuis 1964-66, qu'il en était question de créer un nouvel aéroport pour le Grand Ouest, pour faire un truc international. Et puis bon, dès 66, ils se sont mis à acheter des terrains déjà dans une zone qui était uniquement rurale, qui était pratiquement pas beaucoup urbanisé, et ils se sont mis à acheter pendant 4 ou 5 ans tous les propriétaires qui voulaient vendre. Le conseil général achetait les terrains, ils en ont acheté 700-800 hectares dans l'espace de quelques années. En général, les paysans n'étaient pas propriétaires de leurs terres, la plupart étaient locataires, alors le propriétaire vendait sans tenir compte de leurs fermiers, et quelques-uns partaient en retraite quand même, qui étaient propriétaires, et bien se sont débarrassés de leurs fermes parce que le conseil général leur a proposé de l'argent, et puis là ils en ont acheté dans quelques années, si tu veux, 700-800 hectares quand même sur les 2000 qu'il leur faut maintenant. Alors ils en ont encore qui ne sont pas achetés, et ça a été une première période. Le plan, ils ont fait des études, ils ont fait des recherches un peu, ils ont fait des sur ce territoire pour... C'est arrivé que il y a eu des résistances à ce moment-là déjà, dès au départ. Les paysans n'acceptaient pas de perdre leurs terres, ce qui était surtout fermiers, et les habitants aussi se mobilisaient. Il y a eu un certain nombre de fermes qui ont déjà été occupées dès 1970, si tu veux, par des jeunes qui se sont installés contre l'avis du conseil général qui était propriétaire des terres. Et il y en a eu deux ou trois qui ont été installés dans des grandes fermes d'ailleurs, assez grandes, et puis qui ont continué à travailler. Certains sont encore maintenant sur le terrain et sont devenus, si tu veux, locataires du conseil général précaire, quoi. Ça veut dire qu'en tant que paysan, tu as un an de délai pour quitter le lieu le jour qu'ils veulent t'évincer. Et voilà. Et alors depuis, ils ont acheté des maisons, beaucoup, ils ont acheté des terres. Et ces maisons et ces terres n'ont pas été entretenues d'autres que par les habitants. Donc il y a un certain nombre d'anciens, il y a un certain nombre de gens qui ne voulaient pas rester dans la région et qui n'ont pas trop entretenu leurs maisons, comme le conseil général n'a jamais voulu aider d'un centime de la réparation des maisons, et bien certaines sont tombées en ruine 10 ans après, 15 ans après, qui n'étaient même plus habitables. Et le conseil général, à mesure que les gens partaient parce que la maison était en ruine, et bien il la démolissait, quoi. Le bulle arrivait, il emmenait la maison dans trois camions et pendant parlait plus. Après, c'était un friche qui se développait à la place de la maison. Et ça a été jusqu'en 90, même après, parce qu'il y a eu des maisons qui ont été détruites il y a encore 5 ou 6 ans, quoi. Des maisons qui arrivaient comme ça à terme, que les gens n'étaient plus dedans, mais ils n'ont pas encore, ils n'ont pas, si vous voulez, exproprié ni chassé de personnes de la région, quoi. Pour l'instant, c'est pas ça n'a pas été. Alors ça, c'est il y a eu des années qu'on n'en parlait plus trop de l'aéroport.
Le conseil général à cette époque-là, il était de quel bord?
Le conseil général était un conseil général de notables, hein, comme maintenant, hein. C'était un peu plus de droite et puis un peu moins de gauche. Maintenant, c'est un peu plus de gauche et puis un peu moins de droite. C'est la seule différence. Alors, ça n'a pas changé. Le projet a continué. Et puis, petit à petit, eh bien, on n'en parlait plus jusqu'en 90 ou 92. On en parlait peu. Il avait acheté des terrains, mais il les gardait en réserve. Et puis, bon, il n'y avait pas d'ennui. Il faisait des bails précaires aux paysans ou à ceux qui habitaient dans les maisons, s'ils voulaient, sans faire de réparation, rien. Et puis, c'est en 92 ou 95 que certains, je ne me rappelle plus quel ministre, quel gouvernement, a remis sur le tapis le projet de l'aéroport. Et de 95 à 2000, on en parlait mais assez vaguement, mais à partir de 2000, c'est devenu un projet, pas uniquement Conseil général, c'est devenu en même temps un projet gouvernemental, quoi. Donc elle, c'est le gouvernement qui a pris le relais après 2000, quoi, sur enfin 2000-2004, quoi, qui a pris le projet pour le réaliser, quoi.
Et une question naïve, quel serait l'intérêt pour Nantes d'avoir un nouvel aéroport?
Ben, l'intérêt, c'est. Moi, il me semble, hein, on en reparlera tout à l'heure, mais il me semble que le gros intérêt, c'est que bon, Jean-Marc Ayrault, le Conseil général, qui sont des gens de gauche aujourd'hui, veulent laisser quand même, si vous voulez, une réalisation de grandeur nationale et tout, et puis ils veulent faire cet aéroport pour qu'il concurrence, ou pas concurrence, mais arrive à faire une grande boutique, quoi, si vous voulez, au niveau de l'Ouest, qui concurrence, pas concurrence, mais qui fait un peu. Le même qui fait le même que les trucs nationaux d'Orly ou de machin. C'est un peu leur projet, c'est de faire des grandes choses. Et deuxièmement, je crois qu'ils veulent aussi évincer l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Pas uniquement, ils se servent de ça, mais pas uniquement parce que c'est dangereux pour la ville de Nantes, mais c'est surtout pour l'impact foncier que ça fait. Rezé, Bouguenais et Nantes même sont construits, si tu veux, tout près de aujourd'hui, c'est interdit de construire tout près de l'aéroport. Et il espère que dans quelques années, il va y avoir plusieurs milliers d'hectares qui vont passer constructibles, qui sont aujourd'hui gelés. Et l'avantage de l'administration, je crois, c'est des promoteurs et puis des élus, c'est de faire une zone urbanisée au sud de Nantes, à la place de l'aéroport ou une partie de l'aéroport, toujours tout de suite, de faire des lotissements et le terrain prendrait, si tu veux, 100 fois, 200 fois la valeur qu'il a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas l'utiliser. Et ils ont acheté du terrain à Notre-Dame-des-Landes, qui valait le prix agricole, qui valait, si vous voulez, le prix d'un hectare Notre-Dame-des-Landes, peut-être ils l'ont acheté le prix d'un mètre carré, peut-être à Rezé maintenant. Ça veut dire que le pognon, ils vont se faire du chou gras là-dedans comme ils vont vouloir, quoi. Et il y a aussi bien la mairie de Nantes, la mairie de Rezé, tout ça, qui sont complices avec les promoteurs pour pouvoir rendre quelques milliers d'hectares là à l'urbanisation qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas parce que l'aéroport est là. Et je crois que c'est certainement un enjeu important économique pour eux de pognon, quoi. Et ça compte, c'est prioritaire avec. Voilà, moi là-dessus, on n'en parle pas beaucoup de cette spéculation. Il y a peu de gens qui abordent ce problème de ce côté-là, mais je crois que c'est une logique. C'est comme on voit toutes les communes, Couëron ou n'importe Saint-Herblain, eh bien, leur cimetière qui était au centre-ville, eh bien, ils l'ont déplacé en campagne où ils ont acheté des terrains qui valaient rien, puis le cimetière, ils le vendent pour faire des lotissements à des prix 100 fois, 1000 fois supérieurs, quoi. Et ça, toutes les villes, les terrains de sport, c'est pareil. Ils les font en dehors des villes maintenant pour libérer les terrains qui sont au centre-ville pour faire des lotissements auxquels le terrain, il y a les équipements publics et tout, les promoteurs, là, ils sont de. Et dans toutes les communes, c'est un peu ça maintenant. Avec l'aéroport, c'est le même principe. C'est la spéculation qui, surtout, est très forte pour pousser les projets à s'en aller en campagne plutôt que pour utiliser ces terrains à la spéculation, quoi.
Du coup, là, on arrive aux années 2000. Quand l'aéroport devient donc projet gouvernemental, et là, comment ça se développe en termes d'opposition? Rodolphe.
En termes d'opposition, il y a plusieurs tactiques. Il y a les gens qui sont la vitrine légale, donc les associations de riverains, les associations environnementales du type la LPO, Greenpeace, qui sont parties prenantes, les politiques, les organisations politiques comme les Verts, quoi, qui sont présents sur le terrain. et qui sont constitués en coordination, donc la coordination pour lutter contre l'aéroport. Et historiquement, il y avait avant les paysans qui s'étaient constitués en association qui s'appelle l'ADK. Les citoyens locaux aussi se sont formés avec une association qui s'appelle la CIPA. Donc tout ça, ça forme quand même quelques milliers de personnes au niveau du nombre des adhérents, quoi, et qui tente de créer un rapport de force, mais d'un point de vue politique avec les élus, quoi, d'un point de vue juridique aussi, en faisant des recours juridiques. Et sur le terrain, le problème, c'est qu'on se retrouve parfois peu nombreux, et parce qu'il y a aussi cette peur du gendarme qui est quand même omniprésente. On a tout fait pour mettre dans la tête des gens cette peur, quoi. Et alors c'est pour ça qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont décidé d'agir autrement, qui s'organisent autrement, quoi. Et soit par petits groupes affinitaires ou soit par des rassemblements un peu plus grands, pour entamer des actions un peu plus directes, des fois frontales avec la police, puisque aujourd'hui, il y a des sondages géotechniques qui sont entrepris depuis le mois de janvier 2009 et qui permettront de savoir le contenu de la terre, s'il est possible de réaliser une plateforme aéroportuaire et puis un barreau routier, puisqu'il y a bien aussi l'idée de faire un barreau routier qui va rejoindre les axes Nantes-Rennes et Nantes-Saint-Nazaire. Donc c'est des kilomètres de route et de bétonnage qui sont en vue. Et là, en ce moment, à l'heure où on parle, il y a des forages qui sont en train de se faire dans les champs. Et à chaque fois que la foreuse arrive pour prélever, c'est des centaines de gendarmes qui, en armes, suréquipés, avec hélicoptères, avec contrôle d'identité des habitants, et qui sont répandus partout dans les champs, quoi.
Et ça a commencé dès les premiers forages du mois de janvier 2009.
Le 14 janvier 2009, le premier forage qui devait avoir lieu sur le barreau routier a en fait été fait sur la future piste sud de l'aéroport. Et donc ça a interloqué quand même pas mal d'opposants, de se dire, voilà, vous avez dit que vous veniez sur le barreau routier et là vous êtes en train de faire les pistes. Donc ça a mis en colère un peu les gens. Une 50-60 opposants sont venus dans le champ. Et là, ils avaient déjà prélevé la terre, mis les carottages dans des sacs plastiques et enfermés dans un camion. Et là, on a demandé à ce qu'ils restituent les analyses et qu'ils rendent la terre à la terre, quoi. Et là, après moult négociations, un gendarme nous a dit qu'un négociateur viendrait, puisqu'il n'était pas habilité pour ça. Et en guise de négociateur, on a eu un cordon de gendarmerie mobile qui est arrivé avec les matraques. Et là, il a fallu. On a été obligé à plusieurs collectivement de sortir ces sacs de terre, donc en ouvrant les portières du camion, et on a déversé dans une mêlée confuse et festive même, parce que c'était très drôle de danser avec les gendarmes
et danser avec les loups.
Ouais, c'est ça. Donc c'était comme un mauvais match de rugby, quoi, hein. Tout le monde, c'était une grosse mêlée, et puis on a quand même sorti les sacs de terre, c'était une première victoire. Et de cela est sorti quand même deux interpellations, dont moi-même et un camarade. Et on a été mis en garde à vue. Et pendant 22 heures, on est passé dans les geôles de la République pour la nuit, quoi. Et le 28 avril 2009, on est passé au tribunal de Saint-Nazaire pour être jugé, pour avoir dégradé un véhicule, volé de la terre, pour s'être rebellé contre les forces de l'ordre et pour avoir refusé de donner nos prélèvements ADN. Donc on a pris 4 mois de sursis en tout, quoi. On a fait appel, nous attendons maintenant la convocation à la cour d'appel de Rennes. Donc ça nous laisse du temps pour préparer notre procès, quoi.
Et là, sur les procès, j'imagine qu'il y a eu un minimum de mobilisation et de soutien. Est-ce que c'était quelque chose de large qui regroupait, par exemple, la coordination, ou est-ce que c'était plus sur les collectifs et d'individus?
Je crois que ça a été les deux, parce que la coordination s'est portée directement en soutien des deux inculpés. Il n'y a pas eu défaut de la coordination sur ce coup-là, quoi. Tout le monde a répondu présent, même si la méthode n'a pas été jugée convaincante pour tout le monde, quoi, hein, au départ. Mais en tout cas, tout le monde nous a soutenus et on a eu du monde au procès. Il y a eu un gros barouf médiatique au moment du procès. Et ça a permis aux gens, surtout aux lecteurs de la presse, aux gens à qui on en parle, de montrer qu'il y a une répression policière qui se met en place, quoi. Et comme je le disais auparavant, il y a le système de la peur, hein, c'est la peur du gendarme. Donc plus on montre qu'il y a des forces de l'ordre, plus on montre qu'il y a du contrôle, et plus on intente des procès à des opposants ou on intente des procès à des gens qui auraient l'intention de faire quelque chose, c'est aussi faire taire et faire mourir dans l'œuf toute opposition possible, quoi. Il a été signalé, en tout cas à l'issue du procès, que de toute façon, ça n'entachait en rien notre détermination, malgré les 4 mois de sursis, que ça n'entachait en rien notre détermination à lutter, et encore plus, parce que ça rajoutait de la colère à notre colère, quoi. La colère d'avoir été jugé parce qu'on trouvait légal d'être là à ce moment-là. C'était légitime d'être là, de défendre une terre qui est vouée à la destruction, quoi. Et alors qu'en face, il y a des politiques et des industriels qui concoctent un mixte où l'argent ou la politique vont avoir la main mise sur un territoire, quoi, sans l'aval des habitants, des gens qui y vivent, des gens qui y vivent par leur travail, pour les agriculteurs, qui vivent parce qu'ils ont envie d'un cadre de vie, parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est un bocage, c'est très beau, et y a une qualité de vie qui en ressort. Et donc, c'est plein de gens qui vont être expulsés bientôt, c'est plein de gens qui vont être expropriés, c'est plein de personnes à qui on fait miroiter des emplois qui n'existeront pas, quoi. Donc, il est légitime, dans ce cas-là, de lutter, quoi. Et on peut pas laisser un territoire mourir par le désir politique et le désir industriel, quoi. Donc il y a une opposition qui doit se créer. Et là, elle est en train de se créer parce que il y a des gens qui commencent à réagir, il y a des gens qui s'organisent et qui disent non, nous on n'en veut pas, on veut pas de cette fausse démocratie où on dit on fait des débats publics et puis en fin de compte on demande juste aux gens d'acquiescer, quoi.
On fait des débats publics quand des décisions sont déjà prises, c'est quelque chose qu'on connaît bien par chez nous avec ITER.
Voilà, ça se généralise, c'est une astuce politique bien connue, quoi. Et là, on l'a vu un jour lors d'un débat public à Notre-Dame-des-Landes, c'était en octobre 2008, où le vice-président du Conseil général, Claude Bricot, est venu nous parler de réaménagement foncier. Et on savait très bien que derrière le réaménagement foncier, c'était en vue du futur projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Et il se défendait de cela, quoi. Et quand on est allé dans la salle, sur les rétroprojecteurs, ça ne parlait que du projet d'aéroport, quoi. Donc ça a mis en colère quelques opposants, quoi, qui ont été vite fait se prendre des assiettes et de la crème chantilly et lui ont entarté la gueule pour lui faire voir que aussi la démocratie, elle peut être directe, mais directe direct dans son visage, quoi. C'est-à-dire que on peut pas se foutre de la gueule des gens continuellement, quoi, en disant, en décidant pour eux, en décidant de leur vie, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous capables de prendre notre destinée en main. On est tous capables de choisir de quel avenir on a envie, de quel cadre de vie on a envie. Et là, dans ce projet d'aéroport, la population n'a jamais été consultée. On a demandé l'avis de personne. Et c'est ça qui est le plus intolérable dans l'histoire, quoi. C'est ce défaut de démocratie ou ce semblant de démocratie qu'ils essaient de nous présenter, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer à qu'il faut continuer à s'organiser pour lutter contre cette machine politique.
Retrouvons nos amis et en particulier Céline qui nous raconte ce qui s'est passé cet été 2009 sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes. C'était le fameux camp Action Climat.
Je capte pas bien exactement les débuts du truc. Je pense que c'est un petit peu à l'appel de la coordination que ça se fait, ce truc, hein, de vouloir en fait que pas mal de gens se retrouvent, enfin des gens un peu plus loin que juste la région nantaise ou la zone là, se retrouvent un peu sur ces terrains d'aéroport, quoi, ou autour de cette lutte-là. Du coup, le projet qui sort de ça, c'est ce projet de camp Action Climat, qui est, c'est un espèce de truc qui existe au niveau assez international. C'était le premier en France, mais voilà, un truc de se rassembler pendant un certain temps, là, dans un campement, avec tout un truc autogéré, tout ça, et en vue de faire des actions pour bloquer des projets de ce type-là, en fait. Du coup, il y a voilà, un groupe de gens sur Nantes pas forcément particulièrement impliqués dans la lutte de l'aéroport qui se sont mis à bosser sur ce projet-là de camp climat. En parallèle de ça, il y a eu aussi une... parce qu'il y a eu des dissensions là-dedans, en fait, que dans le groupe camp climat, les gens voulaient pas travailler avec des organisations politiques, en fait. Du coup, il y a eu en parallèle et sur le même terrain une semaine de la résistance, en fait, avec plus des débats de politique, voire de partis. Bref, ça fait un truc assez conflictuel. Bon, en tout cas, il y a eu du monde dans les deux espaces et machin. Avec un peu la cohorte mêlée à tout ça, avec un truc de prêter les terrains, du matos, tout ça. Et ce truc a eu lieu, ma foi, il y a quelques centaines de personnes.
À quelle date ?
Première semaine d'août, du 3 au 9, un truc comme ça. Voilà. Alors, avec assez. Bon, je sais pas ce qui se passait là-dedans. Bon, il y a ce truc d'autogestion, là, de passer plein de temps là-dessus, là, d'auto-organisation par quartier, machin, tout ça. De débats, de prise de décision, des débats de fond, et puis aussi un petit peu des actions. Et une action finale, et dans les actions, je sais pas, il s'est passé divers petits trucs, pas des masses de trucs, mais des manifs en vélo, des petits blocages en vélo, un peu de bordel en ville, des actions clowns, et puis d'autres trucs, plus des pavés dans des vitrines, et je sais pas, des tags, des les chiottes secs ont servi, on dirait, devant pas mal de gens mouillés dans ce projet d'aéroport. Il y a eu une autoréduction au Super U de Vigneux, là, qui a fait gros débat, ma foi.
C'est-à-dire ?
Une autoréduction, ça fait comme un groupe de gens qui vont tirer de la marchandise dans un magasin, là, et puis qui n'ont pas eu l'air de vouloir négocier trop. Et qui ont tiré plein de trucs dans le Super U d'à côté.
Oui, mais quand tu dis ça a créé débat.
Sur quoi il y a eu débat ? Alors là, ça a fait débat sur des tonnes de trucs. Sur stratégiquement, ça valait pas le coup de faire l'action. Ou si, ça vaut le coup. Parce que, enfin, entre des gens qui disent ça vaut pas le coup et d'autres gens qui disent si, parce que Super U, il a une taille démesurée. Et il fait partie du réaménagement plus large de cette zone, qui est un peu la métropole Nantes-Saint-Nazaire, quoi. Grosso modo, enfin. Des personnes qui disent que c'est une action violente et stratégiquement il n'y a pas de lisibilité en lien avec l'aéroport où c'est compliqué la lisibilité là, sur ce truc de que c'est une action violente ou cette question de la non-violence elle faisait pas mal débat en fait dans le camp climat parce qu'il y a eu un peu un appel sur des bases non-violentes sauf que cette question de la non-violence elle n'est pas super évidente en fait hein. Du coup, il y a eu des débats là-dessus sur la consommation en fait, de personnes qui cherchent à consommer des trucs qu'ils ont produits ou localement, d'essayer le moins possible de se ravitailler dans la grande distribution et du coup un truc de voir des bouteilles de coca arriver là, oh là là. Et je sais, ça a fait quelque chose de assez agité. Il y a eu des articles de presse aussi, ça a pris pas mal d'énergie de débat dans le camp climat, quoi. Mais en fait, les débats là-dessus, ils se situaient dans plein d'axes différents, en fait, et dans plein de, je pense que ça a donné des bonnes discussions aussi, en fait, quoi. Au final, quoi qu'on pense de ce truc, Il y a eu du débat, quoi, au moins.
Le camp Action Climat était beaucoup orienté sur le climat, l'écologie, toutes les questions écologiques. Et ce qui manquait à ce camp Action Climat, c'était la dimension sociale, quoi, l'écologie sociale aussi, quoi. Et que l'autoréduction qui a eu lieu, que certaines ont faite, quoi, c'était pour montrer ça, que on était là tous pour lutter contre une chose, c'était le capitalisme, quoi, avec un grand K. Et qui est partout, qui s'immisce partout et qui contrôle nos vies, quoi. Et c'était pour montrer ça. Alors, des gens ne l'ont pas compris, mais d'autres l'ont très bien perçu, quoi. Ont très bien compris le sens, la signification, et que cette autoréduction avait tout le lieu d'être là, quoi. C'était pas un défaut, quoi. Voilà.
Oui, mais forcément, quand s'il y a des représentants des Verts qui veulent en fait continuer le capitalisme sous une autre forme, on peut effectivement comprendre que ça leur pose problème et question, d'où débat.
Sûrement, mais peut-être que ceux et celles qui ont fait l'autoréduction auraient dû mieux faire une autoréduction dans un supermarché bio. Peut-être que ça leur aurait mieux convenu, quoi. Et peut-être dans le futur, les autoréducteurs et réductrices en herbe iront piller des supermarchés bio. Pourquoi pas?
Sur ce truc de qui, enfin, parce qu'à un moment, ce qui s'est passé, je sais plus ce que vous avez dit, mais ça m'a fait penser à ça, mais sur ce truc politique ou du truc de fond qui est porté par ce truc de camp climat, par exemple, c'est un truc de lutte contre le changement climatique, en fait, c'est ça, quoi. Nous, on lutte contre le changement climatique, on est contre le changement climatique, et enfin, je trouve qu'il y a un côté assez peu d'anticapitalisme, en fait, qui est assez peu... assumer, quoi, parce que moi je vois pas comment ça veut dire, quoi, en fait, lutter contre le changement climatique ou lutter contre une conséquence de quelque chose, en fait. Tu luttes pas contre les conséquences, à un moment, tu luttes contre la raison du truc, quoi. Et en fait, c'est ce truc d'anticapitalisme ou de parler vraiment du système économique et de tout ce qu'il génère et pas uniquement en termes écologiques, en fait, ça c'était assez peu présent. Ou ce mot de capitalisme, par exemple, il est assez peu présent et ça questionne vachement. Ça fait comme si plein de gens, en fait, ils assumaient pas de se dire anticapitaliste, alors qu'à un moment, moi je vois comment tu peux lutter contre le changement climatique sans être dans un truc anticapitaliste, quoi. Et du coup se poser d'autres questions que le changement climatique, quoi. Comme ouais, j'en sais rien, enfin tout, quoi.
Et pour en revenir justement à ce mode de réquisition, il y a eu des débats aussi qui ont eu lieu sur la réquisition des terres à Notre-Dame-des-Landes. Puisqu'on sait maintenant que depuis une trentaine d'années, le Conseil général a racheté des terres pour développer le projet d'aéroport, et que c'est nécessaire à partir d'un moment de se réapproprier ces terres, de pouvoir les redistribuer à des gens qui auraient des projets agricoles ou des projets autres, hein, ça peut pas forcément agricole, pour créer une vie collective ou pour créer des zones de transit pour des gens qui sont en voyage, pour créer tout autre projet. Et là, il y a eu au mois de mai, il y a eu une première réquisition d'un terrain de 2,5 hectares qui a été faite, qui a été annoncée à la préfecture et à la direction départementale de l'agriculture, et pour dire voilà, nous on réquisitionne des terrains qui sont voués, qui sont en friche depuis des années et qui ont été achetés par le Conseil général, et maintenant c'est à nous, quoi. Et quoi que vous fassiez, vous nous expulsez, c'est pas grave, c'est à nous. Voilà, et il faut que ce genre de situation, ce genre d'action se perpétue et commence à s'organiser dans le futur.
Et là, les 2,5 hectares, ils tiennent toujours?
Pour l'instant, c'est un lieu de transit pour des gens qui veulent se poser sur Notre-Dame-des-Landes, des gens qui veulent éventuellement créer un projet sur place et tout ça. Et il existe toujours, et même si on a reçu une lettre nous disant de partir, pour l'instant, on tient ce lieu, quoi.
Moi, je voudrais aussi parler sur place des maisons aussi qui ont été occupées. Il y a une maison qui est occupée depuis 2 ans, qui est sur les terrains de l'aéroport. Des gens qui ont du coup décidé de prendre une maison qui était vide et qui s'y sont installés, qui ont commencé à créer des liens avec avec un peu les personnes qui habitaient sur place. C'était plutôt des personnes qui venaient de la ville à la base. Et du coup, qui sont comme ça, petit à petit, en 2 ans, qui sont rentrés dans la vie locale et du coup, qu'occupent aussi concrètement la zone. À la fin du camp climat, il y a un premier débat le mercredi soir, si mes souvenirs sont bons, et un autre à la fin, il y a eu un appel à occuper les lieux sur Notre-Dame, et il y a aussi des personnes qui ont décidé de rester pour s'implanter sur place, quoi. Il y a un peu un appel qui est lancé comme ça aussi à des gens à venir occuper Notre-Dame-des-Landes pendant leurs vacances, pendant des temps plus ou moins longs, et tout ça.
Et moi, je voulais revenir peut-être sur l'interaction entre le camp climat et la population locale. Est-ce que, parce que des fois, des camps comme ça, autogérés, arrivent dans des endroits et sont un peu hors sol, j'ai envie de dire, par rapport à une population, voilà. Et là, comment c'est passé? Quelle est votre vision là-dessus?
Alors ma vision, ce serait qu'il y a eu assez peu d'interactions pendant le camp climat en fait. Enfin, je pense que l'interaction est passée par les médias, quoi. Ou peut-être si les gens lisent les médias, ils ont dû lire des trucs sur le camp climat. Après, il y a des gens qui sont passés par le camp climat. Plus les gens du coin, je pense, ils sont passés sur la semaine de résistance au-dessus, là, les débats politiques, machin. Et de faire un tour sur le camp climat ou d'être un peu là et tout. Et sinon, après, l'autre interaction, c'était les habitants là qui sont en résistance et qui ont fait cet appel à occuper la zone, en fait. Bon, qui sont des gens du coin aussi, en fait. Mais je crois, enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu peu ça, sauf à partir de ce truc d'appel à l'occupation, et qui a assez marché, qui a fait des grands débats avec plein de gens, et où du coup des gens se sont dit, ok, bah nous, on va rester ici, on va revenir vivre ici, ou on va rester en lien avec ici, avec la lutte ici, et voilà, on va venir vivre, et où il y a eu un peu un truc de, bon, bah faut qu'on rencontre les gens du coin, et de faire des tours pour aller voir des gens, voir des terrains, enfin, comme prendre contact et tout ça, quoi. Mais sinon, il y a eu assez peu de. Je pense qu'il y a eu assez peu de liens, quoi, parce que oui, bah, c'est le genre de truc, hein, c'est toujours un peu pareil. Je crois que le lien localement, il est souvent assez difficile. Et en même temps, je trouve par rapport à ces grands événements, là, ces grands campements, ces grands trucs activistes qui se passent régulièrement et où souvent, je trouve localement, tu peux avoir assez peu de retombées positives, quoi, parce que tu as plein de gens qui débarquent, qui partent, et puis toi, tu restes avec la répression sur les bras après, et c'est tout, quoi. Là, déjà, il n'y a pas eu de personne arrêtée ou quoi. Et du coup, il n'y a déjà pas cette énergie localement à passer sur des procès. Et par contre, il y a des retombées vraiment concrètes avec cet appel, enfin, ou une espèce de nouvelle dynamique qui est lancée à partir de ce truc de camp climat, d'occupation de la zone et d'être un peu en lien avec tout un tas de gens et de gens qui veulent venir vivre ici, en fait.
Je crois que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas Plogoff. Notre-Dame-des-Landes, c'est pas le Larzac et c'est pas le Carnet. C'est pas ça. Pour l'instant, on n'est pas dans cette vision de la lutte, quoi. Et la population, je veux dire locale, on lui en a parlé pendant 40 ans de l'aéroport. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans un esprit de dire. Ça va pas se faire parce qu'ils nous ressortent leur dossier assez souvent comme ça. Ils en reparlent et puis après ils en parlent plus. Puis après ils ressortent ça des cartons et ça a duré pendant 40 ans. Et il y a des gens qui sont aussi fatalistes, qui se disent bah qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre. Mais je crois qu'on a pu peut-être pas assez l'habitude de s'organiser, quoi. Les gens sont un peu retranchés dans leur isolement, retranchés dans leur vie, avec leurs problématiques perso. Mais il y a quand même des choses qui se créent. Il y a quand même des choses qui se font. Et tant qu'il n'y a pas, je crois, parce que là, on commence à voir les forces policières qui arrivent. Il y a des gens qui commencent à s'interroger. On en discute, quoi, avec certaines personnes. Et il y a des gens qui se disent, bah, c'est un truc de fou, c'est un truc de taré, quoi, de se faire contrôler alors qu'on est chez nous, qu'on rentre chez nous, tu vois, ou des agriculteurs qui sortent avec leur tracteur, qui se font contrôler. Et ça commence à énerver la population. Il y a des gens qui commencent à s'énerver par rapport à ce fait-là, quoi. Et quand, si malheureusement les travaux venaient à arriver, les vrais travaux, je pense que là, la population réagirait plus de la même manière, quoi. Elle serait encore plus remontée contre des décisions auxquelles ils n'ont jamais étaient impliqués, quoi, et que ils se sont fait avoir par leurs élus, tous ceux qui ont décidé pour eux, quoi, et peut-être que là la donne va changer, quoi. Donc c'est, je pense que c'est, ce moment-là est proche, quoi.
En tous les cas, moi, là, ça fait que quelques jours que je suis sur Nantes. Il y a un truc qui m'a marqué quand même. C'est au tout début où je suis arrivé, il y a eu cette action de bloquer la foreuse par des gens de la coordination, donc les gens qui sont traditionnellement plus dans une démarche légaliste et avec des techniques de tube à bras. Donc on s'enchaîne sur un tube à bras et on reste accroché, et que ça c'est quand même je trouve assez particulier d'en venir à ces pratiques là quand on est plus je voudrais dire historiquement plus enclin à faire des pétitions ou des rassemblements citoyens, quoi.
C'est ça, il y a des gens qui s'organisent, qui disent que la désobéissance civile, c'est aussi l'affaire de chacun, quoi, et que on a les moyens par des actions coordonnées collectivement de pouvoir gêner l'avancée des travaux, quoi, et que s'il y a ce rapport de force qui se crée contre les pouvoirs publics, contre ceux qui décident, s'il y a un vrai un rapport de force qui se crée continuellement, au bout d'un moment, ça va lâcher quelque part, quoi. C'est soit en face, ils vont au carton et puis ils amènent l'armée et puis ils font leurs travaux coûte que coûte. Mais en tout cas, vu comment ça se passe, vu comment les gens commencent à s'organiser sur place, dans l'avenir, il y aura encore plus d'actions comme ça où les gens s'enchaîneront, où ils feront autre chose, quoi. Mais il y aura plus d'actions de gens qui vont perturber les travaux, quoi. Ça, c'est clair. Ça, les travaux ne se feront pas, quoi. Parce que déjà, rien qu'avec les forages, à chaque forage, il y a du monde dans les champs, il y a du monde pour s'opposer, il y a toujours une action qui se fait, et tant mieux. Parce que ça voudrait dire qu'on aurait baissé les bras, qu'on aurait laissé les autres décider pour nous. Et là, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui se mettent en branle, qui s'organisent, qui réfléchissent et qui font ça de façon joyeuse et festive, quoi, même des fois, quoi. Et donc, il faut que ça continue. Et puis, moi, personnellement, j'appelle aux gens à créer des nouvelles formes de lutte, quoi, pour Notre-Dame-des-Landes, quoi, à être créatif, inventif, et puis y aller, quoi, parce que faut pas avoir peur de ce qu'on nous met en face, quoi, faut juste répondre de manière intelligente, quoi, et faire voir qu'on est capable de garder un territoire, parce que c'est le territoire que, enfin, on veut pas du béton sur ce territoire, quoi.
C'est clair que si à chaque forage c'est 200 flics et un hélicoptère, il va coûter cher l'aéroport. Sur les histoires d'appel à occupation, est-ce qu'il y a, si jamais des gens ont envie de venir ou d'avoir plus de renseignements, il y a des contacts, un site web, quelque chose, un Émile quelconque ?
Il y a un lieu où on peut rencontrer des gens, c'est le lieu de la vacherie, qui est le lieu de résistance sur place, dans une ferme, et sur Notre-Dame-des-Landes. Et qui est dans le projet d'aéroport qui sera rasé, hein, puisque c'est un fait partie de cette zone où les pistes vont, la piste sud va être construite. Et sinon c'est là qu'on peut rencontrer des gens qui sont opposants et résistants à ce projet.
Paul a tenu à revenir sur les bisbilles internes et les désaccords politiques qui existaient entre les différents protagonistes de la lutte contre cet aéroport.
Quand il y a eu un meeting là, le jour du camp climat, c'était pas dans le camp climat, c'était à côté la coordination, et bien les élus qui sont venus faire leur discours pendant 3 heures l'après-midi, les élus de l'Alternative, des Verts et tout, ils ont dit, voilà, si vous voulez pas que l'aéroport se fasse, pensez à nous au vote des régionales, et c'est là qu'on agira pour empêcher l'aéroport de se faire. Mais votez bien, et ça ira tout seul. Et bien, quand on développe cette attitude, et bien, c'est vrai qu'on est pour la légalité, et puis ça veut dire qu'on n'a aucune résistance. On appelle ça la semaine des résistances, et puis de marcher sur un truc légal comme ça, c'est plus de la résistance, c'est de la compromission.
Et du coup, dans les conséquences du camp climat, les relations entre la cohorde et d'autres manières de faire continuent à se tendre.
J'ai un petit mot à dire là-dessus. Je crois qu'avant déjà le climat était très tendu depuis longtemps avec les résistants du terrain et tout, depuis 2 ou 3 ans, un an surtout ou 2, on fait des actions qu'ils n'étaient pas d'accord et puis ils s'y opposaient, mais ils nous dénonçaient qu'on fait des actions. Les Verts, tout ça, nous ont dénoncé que ça servait pas à la lutte, c'était le contraire. Et suite à ça, le camp climat s'est organisé dans ça, mille misères pour l'organiser parce que ceux qui l'organisaient, c'est vrai qu'il y a eu 3 groupes, il y a eu le groupe de la coordination, il y a eu le groupe de résistance. Il y a eu le groupe du camp climat. Ça a lieu dans le même champ, mais avec 3 groupes qui avaient de la peine à se confronter et à discuter. Ça a été un peu la division quand même, mais bon, il y a eu quelques personnes qui ont vécu un peu les uns et les autres. On n'a pas fait automatiquement obstruction à ce qu'il y avait des débats. Et les débats, ben, ça a été pas large, mais ça a été quand même plus large que des fois. Et suite à ça, il y a eu quand même des débats, surtout au camp climat, qui ont fait des débats libres avec tous les gens, pas organisés, pas d'élus, qui ont fait qu'il y a eu quand même une certaine démocratie dans le débat, dans la discussion avec les gens, les résistants du local, avec les gens de l'extérieur, avec des gens de différentes associations. Ça a avancé fur et à mesure que les jours ont avancé, mais ils ont marché, et ça marchait surtout entre eux, les gens qui étaient dans le camp climat, plutôt qu'en association avec la coordination et tout. Et ça marchait, ça avançait, et jusqu'où il y a eu quand même les derniers jours, si tu veux, des actions un peu communes, ce qui est eux qui sont réalisées un petit peu, et des initiatives surtout pour venez vivre au pays, venez vivre sur Notre-Dame-des-Landes et Vigneux. Venez vivre, venez travailler, venez habiter parce que normalement, le terrain n'est pas à vendre, le terrain n'est pas à... Venez vivre et ça a été une certaine dynamique, si bien que quand a fallu quitter le camp climat, il y avait 30aine de personnes qui disaient ben, nous on ne veut pas partir, on veut continuer à occuper le terrain. Et ces gens-là sont restés, ils sont encore de reste aux alentours par là, et ces gens-là sont restés parce qu'il y a un certain mot d'ordre qui leur a plu et tout. Et ça, si tu veux, on arrive aujourd'hui avec la coordination à peu près à créer un rapport de force un peu plus qu'avant. Je crois qu'on a augmenté le rapport de force vis-à-vis de ça, un peu. Et je crois que c'est ça qui est bon, c'est qu'il se développe aussi à côté de ceux qui veulent mener le truc officiel avec les organisations politiques ou les élus. Il y a aussi une opposition de rejet, si tu veux, de cette compromission. Et aujourd'hui, on essaie de cohabiter ensemble, mais ce n'est pas évident. Mais il faut créer le rapport de force des uns vis-à-vis des autres. Aujourd'hui, on est en train de reprendre la main, on espère.
Mais... En me faisant un peu l'avocat du diable, le fait d'avoir des diversités de tactiques et par exemple d'avoir des gens qui travaillent sur le juridique, des fois ça peut permettre de ralentir des projets, de laisser donc plus de temps pour s'organiser pour d'autres choses. Et est-ce que là, je ne sais pas, sur l'aspect de suivre la voie des légalistes, des fois ça permet aussi de ralentir certaines choses?
Moi, je serais plutôt de cet avis que la multiplication des tactiques, c'est important, même si c'est plus qu'important, je pense que c'est nécessaire. Et c'est nécessaire parce que, d'un côté, on voit des gens qui, depuis longtemps, je ne saurais pas dire exactement combien de temps, mais se trouvent à Nantes devant le Conseil Général tous les jours avec une petite chariote non à l'aéroport pour faire de l'information sur Nantes. D'un autre côté, c'est des gens qui vont s'opposer en se mettant physiquement en avant devant les machines et devant les flics pendant les forages. C'est les techniques certes surprenantes pour cette fois de la corde qui va aller se loquer sur le passage de la machine d'Angers à Nantes, parce que c'est une machine qui vient d'Angers pour bloquer les forages. C'est des gens qui vont plutôt faire des discussions publiques, c'est des gens qui vont plutôt occuper le terrain, c'est d'autres qui vont décider de projeter des films localement, c'est des gens qui vont plutôt tenter de discuter sur Nantes. Et l'ensemble de tout ça créer un système de lutte complet et complexe, et je pense du coup beaucoup plus qui pourrait être en tout cas beaucoup plus difficilement attaquable si tant est qu'on arrivait à être dans une entente entre tous ces groupes et qu'il n'y ait pas des moments de désolidarisation de la part de la corde vis-à-vis d'autres modes d'action. Et que la problématique la problématique qui est forte, c'est ce côté de, à un moment, ne pas. De la part de la corde, de ne pas reconnaître certains modes d'action et de dire que ça va être contre-productif ou je ne sais pas, ou je ne sais quoi. Et que, sinon, bien sûr, je pense que c'est important et nécessaire d'avoir vraiment toutes les pratiques qui sont possibles et d'en inventer des nouvelles pour être le plus complet possible sur la lutte contre l'aéroport. Et c'est pas. Je pense, en tout cas, dans ce qui a été dit, c'est pas un truc de dire bah, le juridique ça sert à rien et faire du juridique ça sert à rien. Moi je le ferai pas, c'est un travail que je trouve trop complexe, trop fatigant et tout ça, mais si des gens ont envie de le faire, eh ben qu'ils le fassent. Je trouve ça plutôt chouette que ce soit fait et que des gens arrivent à mettre de l'énergie dans des dynamiques comme celle-là. Après, le problème c'est quand il y a des désolidarisations sur soit les modes de pratique ou même de faire des actions sur le terrain.
Puis là, globalement, la corde, elle s'est quand même souvent dissociée en fait d'autres actions qui avaient lieu et qui sont pas venues d'elle en fait. Et enfin sur divers trucs, hein. Et parce que aussi ça eux ça gêne leur enfin ou ce qu'ils disent ça gêne leur démarche auprès des élus et tout. Après les élus leur disent non, mais nous on peut pas être là-dedans, regardez les gens ce qu'ils font, machin. Enfin, où ça gêne leur stratégie. Et que moi je trouve un truc qui est censé là-dedans, enfin de regarder ce truc-là, c'est quand il y a eu l'enquête d'utilité publique par exemple, où il n'y a pas eu d'opposition concrète et directe à l'enquête d'utilité publique. Ils ont laissé faire l'enquête, quoi, avec un truc de bon, bah, les personnes ont qu'à mettre dans le cahier ce qu'elles veulent mettre. Et du coup, la déclaration d'utilité publique, enfin, ça a été déclaré d'utilité publique, et après, c'est un recours juridique contre l'enquête d'utilité publique. Mais en fait, moi, je ne peux pas croire à ça, que le juridique seul, ou le lobbying seul auprès des élus, va marcher, en fait. Ça ne peut pas être uniquement cette stratégie-là qui marche, en fait. Ce qui peut marcher, c'est une alliance de plein de stratégies, en fait. Et effectivement, le combat juridique. En alliance avec plein de trucs là, ou en synergie avec plein de trucs, peut-être il peut ralentir et il peut, et voilà, ça fout du sable dans l'engrenage. Mais là, c'est pas ce qui s'est passé en fait. Enfin, ou jusqu'à maintenant, moi, après ça fait pas super longtemps que je brasse là-dedans, mais j'ai pas l'impression que c'est ce qui s'est passé parce qu'il y a de la désolidarisation directe ou et voilà quoi.
Pour ceux qui douteraient de la pertinence de la diversité des tactiques, j'ai retrouvé un tout petit texte qui est en exergue d'un bouquin que j'ai chez moi. Qui est de Frédéric Douglas, qui est un fils d'esclave et militant contre l'esclavagisme. Et ça se passe au 19e siècle. Et il dit, s'il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de progrès. Ceux qui prétendent favoriser la liberté, mais qui désapprouvent l'agitation, ceux-là veulent des récoltes sans labourer la terre. Ils veulent la pluie sans le tonnerre, ni la foudre. Ils veulent l'océan sans son grondement épouvantable. La lutte peut être morale, ou elle peut être physique, ou elle peut être morale et physique à la fois. Mais il faut une lutte. Le pouvoir ne concède rien sans revendication. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Et ça répond complètement à ce qu'on est en train d'évoquer, c'est-à-dire qu'il faut de la diversité des tactiques, même si ça ne plaît pas à certains, on n'est pas obligé d'aimer, mais on n'est pas obligé de contredire, quoi, et de désapprouver la lutte de l'autre, quoi. Surtout qu'on est dans une même lutte, sauf qu'on a des points de vue différents, on a peut-être des divergences politiques, mais on est quand même sur un même bateau, c'est la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.
Même pour aller jusque-là, quand on mène des actions, si vous voulez, qui ne sont pas d'accord, ils l'ont même dit, ils sont quatre à la coordination, que toute action doit passer par ces quatre personnes qui doivent donner leur action. Et lorsqu'on a fait des choses qui étaient en dehors, eh bien, si tu veux, on nous a même prié de quitter la coordination, malgré que je suis adhérent, moi, à la CIPA, on m'a dit de ne plus y aller parce que, si tu veux, il faut parler que des recours, que de pognon et tout, et puis il ne faut pas parler d'une mobilisation et dans la lutte. Et ça, là-dessus, on nous a carrément jeté dehors, on m'a dit, moi, et en plus on a envoyé des copains qui étaient pas loin de nous, on a envoyé de dire, valait mieux que j'aille pas à la coordination, parce que je gênais le fonctionnement de la coordination.
En ce moment, il y a sur Notre-Dame-des-Landes et aux alentours, dans les communes alentours, il y a des gens qui occupent des maisons. Parce que le Conseil Général a racheté des maisons depuis 30 ans, qui rachète des terrains, il rachète aussi des maisons. Et des maisons qui pourraient loger du monde, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont sans logement, qui cherchent des logements, quoi. Et donc, puisqu'ils sont voués à la destruction, des personnes ont décidé de se les réapproprier et les occuper, quoi, pour en faire des lieux de vie et des lieux familiales, ou tout simplement des lieux, quoi. Ou aussi, toutes ces personnes qui occupent les lieux ont le sentiment qu'il va y avoir un gâchis total dans le coin, quoi, et se disent, on peut pas laisser faire ça, donc on crée de la vie sur place, quoi, on crée ce qui a toujours existé, quoi. Et donc le problème étant qu'aujourd'hui, beaucoup de ces personnes qui occupent ces lieux sont menacés d'expulsion, quoi. Ils sont menacés d'expulsion parce que forcément ils sont gênants et forcément ils sont sans droit ni titre puisque il n'y a pas de bail qui leur a été fourni par le Conseil Général. Sur Vigneux, par exemple, il y a un lieu qui a été occupé depuis 2 ans. Ce lieu a été mis dans les mains de la mairie. Et normalement, qui devait être gestionnaire de cette maison, quoi. Et la mairie s'est désengagée à un moment donné, il y a quelques mois de cela, s'est désengagée par rapport aux travaux qui auraient pu y avoir dedans, par rapport aussi à la nature des occupants, quoi. C'est-à-dire à leur fonctionnement politique, à leur désir politique, quoi. Et ils sont complètement désengagés. Et quand les occupants de cette maison ont voulu faire savoir leur dégoût, quoi, de cette façon de faire politiquement, c'est-à-dire que tous les gens de la mairie de Vigneux de Bretagne qui sont de gauche pour la plupart et anti-aéroport pour quasiment tous ont ce jour-là simplement appelé la gendarmerie pour défendre un conseil municipal qui croyait être gêné par les habitants qui venaient dire juste un texte pour dire leur dégoût et leur mépris de cette politique qui est complètement antisociale, quoi. C'est-à-dire que on veut bien qu'il y ait des gens qui viennent, mais après, dès que on voit que politiquement c'est pas du même bord, alors on se désengage et puis on les met dans la gueule du loup, c'est-à-dire on appelle la police et puis on dit ces gens-là on n'en veut pas. Donc il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on veut à Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce que veulent certains élus, certains politiques, est-ce qu'ils veulent des gens bien intentionnés sur le terrain, ou est-ce qu'ils veulent tout un chacun qui a droit de vivre à Notre-Dame-des-Landes s'il en a envie, surtout que les gens qui habitent dans cette maison ont créé du lien social, ont créé un jardin collectif, s'impliquent durablement dans cette lutte, quoi. Et avec intelligence et puis avec des rapports humains qui sont joyeux, festifs, puisque ça arrive qu'on se retrouve, qu'on fasse la fête, qu'on rencontre des gens qui vont tout perdre dans les années qui vont venir. Il serait intéressant que les opposants élus s'interrogent à un moment donné dans leur vie politique, s'interrogent du bien fondé de leurs actions, c'est-à-dire lâcher les gens qui ont besoin d'un soutien, là, du coup. Et là, on voit que c'est une déficience politique totale, quoi. C'est-à-dire que c'est un vide politique. Il y a un vide politique de la part des élus, de certains élus locaux, quoi.
Pour ce truc d'occupation aussi, du coup, ça veut dire actuellement, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette maison occupée depuis 2 ans. À la suite du camp climat, il y en a une autre. Les gens qui sont restés ont occupé une autre baraque. Il y a un terrain sur lequel il y a un jardin collectif. Il y a un autre terrain qui est plus ou moins occupé par des gens de passage ou quoi, mais voilà, enfin, qui existe comme un terrain qui est à nous. et puis ça, c'est voué à se poursuivre. Et moi, je trouve qu'il y a un sens super fort là-dedans, en fait, de ben, en fait, c'est cette zone-là, là, qui, on l'appelle la ZAD, là, c'est zone d'aménagement différé. Mais on appelle ça zone à détruire, hein, entre nous. bah, ça devient une zone à reprendre, en fait. Enfin, on va pas. Comme un truc de venir vivre ici et on va pas leur lâcher cette zone en fait. Et ça marchera pas, où on va être là et on leur laissera pas quoi. Et on la prendra au fur et à mesure qu'il y aura des expulsions, on la reprendra. Et je pense que ça marche assez bien parce qu'il y a pas mal de monde qui veut venir là-dessus. Et pour moi ça a un sens, enfin pour en revenir avec ces trucs de recours juridiques et tout, même si admettons une lutte elle serait gagnante sur un truc de recours juridique et de lobbying auprès des élus, en fait qu'est-ce que t'aurais gagné là-dedans quoi? T'aurais rien gagné quoi. Alors que là, à venir vivre sur ces terres là, en fait, ben. Ouais, bah on gagne un truc quoi, enfin, parce qu'on est dans un truc de réappropriation et de. Ouais, j'en sais rien, ou de vivre dans un espace où tu vis dans un espace, ta vie elle se situe dans un endroit qui est en lutte et avec plein de liens super forts et plein de trucs qui se passent, et ça, je trouve, il y a un sens vachement plus fort là-dedans en fait.
Terminé, Alain nous parle de Nantes, du développement de l'agglomération nantaise dans lequel s'inscrit la construction de cet aéroport. Mais nous devons forcément regarder ça un peu plus largement que la construction de l'aéroport stricto sensu. Alain donc.
Alors là, je voulais parler en fait plus, j'aurais presque dit de Nantes, de la ville de Nantes en elle-même. La ville de Nantes, c'est une ville en grande expansion, hein, qui s'arrête pas, de construire de nouveaux bâtiments, construire toute une politique de la ville. Donc Jean-Marc Ayrault, dont le nom a été déjà quelques fois cité ici, qui est maire de la ville depuis longtemps et qui a une assise politique vraiment forte, qui passe au premier tour aux élections sans problème, et qui est vraiment reconnu sur la place comme un maire de gauche, un maire social. Un maire qui cherche à construire des quartiers mixtes en détruisant allègrement des barres HLM et en mélangeant les pauvres avec les riches pour soi-disant créer de la mixité sociale et dans un autre sens aussi empêcher des phénomènes ou dans la croyance d'empêcher des phénomènes de bande et des choses comme ça. Jean-Marc Ayrault qui construit une ville reconnue ville culturelle. Très largement qui du coup développe une politique dans la réalité complètement en tout cas de mon point de vue complètement mégalo et du coup qui se vante un peu partout d'être une ville écologique avec des bâtiments construits dans ce qu'ils appellent HQE qui est une haute qualité environnementale. Alors ça consiste à construire 4 murs de béton dans lesquels on met des appartements sociaux et de mettre quelques planchettes de bois sur les murs, un petit peu de végétation sur le toit, quelques arbres autour et voilà, c'est de la haute qualité environnementale. Un peu pour placer géographiquement Nantes aussi, parce que bon, voilà, vous allez nous entendre d'un peu loin, on est pour l'instant à 2 heures en TGV de Paris, avec le nouveau TGV on va passer à 1h30. Il y a un réseau de transport en commun qui est quand même largement développé, qui permet assez facilement d'être en fait dans quelques années à seulement 2 heures de Paris, donc ce qui est quand même vraiment pratique pour développer, pour que ce soit une ville qui continue à se développer largement. Et dans ce grand projet mégalo, Nantes a envie de devenir une métropole beaucoup plus grande et de créer une métropole avec une autre ville qui est à côté, qui est Saint-Nazaire, qui a environ 70 km. Entre ces deux villes, on trouve un petit village qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes, qui est du coup l'endroit où va être construit l'aéroport. Donc cet aéroport, il se place pas très loin de la Loire, il se place sur une zone qui va être largement aménagée, tant en termes d'habitation qu'en termes d'entreprise, L'estuaire de la Loire, qui est du coup toute la partie de la Loire qui va de Nantes à Saint-Nazaire, est déjà largement constituée de terminaux, étant donné qu'il y a un port autonome à Saint-Nazaire qui finit à Nantes, soit 70 km plus loin. Terminaux qui vont du bois exotique en face du quai des Antilles au terminal pétrolier à Donges qui nous font des fuites de pétrole régulièrement. En passant par des terminaux charbon, des transports de personnes. Et du coup, c'est vraiment déjà une zone largement développée. Et du coup, construire un aéroport là, c'est aussi faire en sorte que la petite zone qui est entre les deux, qui est encore une zone assez rurale, se développe économiquement et en nombre d'entreprises qui voudraient venir s'installer là. Et du coup, il y a un projet de faire une immense métropole. Et ça passe par plein de détails sur la longueur de l'estuaire, comme par exemple tous les 2 ans un espèce de rassemblement d'œuvres artistiques qui s'appelle le projet Estuaire, où on trouve aussi bien des loups enfermés dans les douves du château que des oiseaux qui jouent de la musique sur des guitares autour du bouffet,
que Daniel Buren, qui le grand artiste officiel de la Mitterrandie rayonnante avec le Palais Royal à Paris, qui n'en finit pas de se recycler dans la culture officielle socialiste, parce que j'ai vu ces anneaux de l'estuaire.
Ouais, donc du coup c'est cette œuvre-là qui date de l'estuaire 2007. Et je sais pas, il y a un geyser qui sort de la Loire, comme ça. Ils ont essayé de faire flotter un canard, ce qui a malencontreusement raté. Je me demande s'ils ont même pas essayé une deuxième fois de le faire flotter, mais vraiment, il veut pas flotter. Il se dégonfle et il coule. Un canard géant, un peu comme les petits canards qu'on met dans le bain, mais en grand, en version très grand. Mais c'est un truc dans la ville de Nantes. Bon, on a Royal de Luxe aussi, qui était, je pense, des petits mégalos à la base, qui s'amusaient à construire des grosses machines avec plein de trucs. Je pense un groupe artistique assez sympathique en ambiance de travail et tout, qui s'est fait petit à petit reprendre par la ville. Et où maintenant la ville a carrément racheté leurs énormes machines. C'est des éléphants, c'est des espèces de marionnettes géantes, hein, qui sont vraiment énormes. Et du coup, qui font des tours artistiques sur tout un bout de la ville de Nantes, ou qui promènent les touristes et tout ça. Donc du coup, c'est toute une ambiance comme ça qui est créée. C'est la volonté de faire croire que l'estuaire est une zone protégée, parce que il y a quelques marais qui ont juste mangé 2 marées noires il n'y a pas très longtemps d'affilée, qui sont juste à côté de Donges, qui est donc du coup notre raffinerie locale. Et du coup, bah, regardez, c'est joli, c'est une zone protégée, c'est magnifique. En même temps, il la pourrissent un peu de partout en parallèle discrètement. Avec des projets d'agrandissement de Donges, justement sur cette zone de marais qui est une zone protégée. Ils galèrent un peu à la récupérer, mais ils finiront bien par l'avoir. À force de la détruire à coups de pétrole, ils finiront par l'avoir. Et du coup, ben voilà, ça s'agrandit un peu partout et ça tente de faire en sorte de faire exister dans la tête de tout un chacun cet estuaire, cet ensemble Nantes-Saint-Nazaire. C'est totalement assumé par la ville, au sens où dans leur plaquette de présentation du truc artistique Nantes-Saint-Nazaire, c'est clairement écrit, on trouve clairement l'appellation Métropole Nantes-Saint-Nazaire, et il y a un côté assumé là, qui passe dans la population locale. Il y a des milliers de personnes qui vont voir les loups dans les douves du château, parce que quand même c'est magnifique, un petit peu de sauvage au cœur de notre ville, tant couverte de béton avec... Je ne sais combien de litres d'eau de Javel pour la faire blanchir tant que ça, parce que vraiment, elle blanchit. À court de temps, elle blanchit, elle ne fait que ça. Les murs blanchissent, tout blanchit. Et elle se nettoie, et le centre-ville devient de plus en plus occupé par des bourgeois et des bobos. Tous les petits quartiers qui étaient autour, anciens quartiers populaires, sont petit à petit vidés. C'est le béton qui pousse vraiment partout. Et voilà, et du coup, ça, c'est un projet qui avance tout doucement. Et on peut vraiment pas sortir l'aéroport, en fait, de cet immense projet. Cet aéroport qui est d'ailleurs aussi, ça n'a pas été dit, un aéroport haute qualité environnementale.
Avec des avions en paille.
C'est des avions qui roulent à l'huile de tournesol, oui. C'est un peu la blague locale. Non, c'est un aéroport HQE, parce qu'il va être construit déjà dans des matériaux soi-disant propres. et ils vont récupérer les pauvres petites grenouilles et tritons qui sont dans les mares, ils vont leur recreuser des mares un peu plus loin pour pouvoir les réimplanter pour qu'ils soient bien et qu'ils puissent continuer à vivre. Parce qu'il ne faut pas trop abîmer la zone, il faut savoir protéger les espaces, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut savoir aussi que cette zone a peu connu le remembrement et que c'est quand même assez, assez rare, les zones comme ça, où c'est que des toutes petites parcelles avec vraiment du bocage et des haies partout. C'est quand même un espace assez, j'ai envie de dire, exceptionnel et bizarre dans le coin, où ça fait une ambiance pour une distance assez proche du cœur de Nantes, hein, 30 km, donc du coup environ 30 de Saint-Nazaire aussi. C'est vraiment un espace bizarre, quoi. Mais du coup, c'est vraiment entre les deux villes, quoi. Il faut aussi prendre en compte qu'aux dernières élections, là, municipales, environ tous les maires qui sont sur les deux côtés de la Loire, entre Nantes et Saint-Nazaire, sont assez amis avec Jean-Marc Ayrault. Et du coup, ça permet aussi une facilitation du développement de ce grand projet de métropole géante, quoi. Et du coup, ça va devenir aussi le grand pôle économique de l'Ouest, avec cette tentative permanente là de faire exister et en même temps de détruire le chantier, les chantiers navaux de Saint-Nazaire, avec tout ça, quoi. Voilà.
Bah merci Antoine, Céline, Paul, Rodolphe, le chien, les oies.
At this time, we'd like to call to your attention the importance of being illustrated on to find the location of the seat pocket in front of you.
Radio Zinzine vous a présenté Comme un avion sans aile, la lutte contre l'aéroport de Nantes ou l'aéroport, comme vous voulez, de Nantes à Notre-Dame-des-Landes, octobre 2009.